bar du port l'après-midi. Rien ne se passe, rien ne se dit. Entre les quelques hommes avachis, éparpillés aux tables et au comptoir. Un flic entre et scrute la population avec des yeux de chien battu. Personne ne lui prête attention. Deux hommes au comptoir. Il faut tout brûler. C'est-à-dire, tout. Mais qui ? Tous. C'est stérile. Non, c'est fertile. Le flic se déshabille, s'agenouille au centre de la pièce, pleurniche, puis pleure, puis pousse des cris porcins. On ne lui prête toujours aucune attention. Le flic, les mains jointes pour prier, « Père, je suis nu, nu devant toi, nu devant mes frères. Mes péchés me poursuivent comme une nuée de mouches, car je sens. Il faudrait que je quitte la ville tellement je pue, et je craindrais de puer encore, quoi que je fasse ou que j'aille. » Père, mes péchés me poursuivent et je poursuis mes péchés. Pardon. De nouveau en sanglots. Pardon, pardon, pardon. Je sais qu'il n'y a plus de pardon pour moi. Le maire entre, entouré de chipandales. Il jette des billets, des cotillons. Il va vers le comptoir, baise tendrement la bouche de tous les piliers de bar, puis inspire à plein poumon l'air purifié du commerce. Il pose un regard de compassion sur l'homme nu et mouillé. Il avance, se penche à son oreille, il murmure un secret. Les yeux du flic pétillent de joie. Il se rhabille, remet son képi et sort, suivi des chipandales. Le maire, sur le pas de la porte, lève son poing au ciel. « C'est ma tournée ! À l'Apocalypse !» Tous en cœur, « À l'Apocalypse !»
Les voix du crépuscule se transforment momentanément en émission littéraire pour présenter l'étrange roman dont vous venez d'entendre le début, roman sorti en août 2025, L'éclat des fracas, en présence de son auteur, le metteur en scène spécialisé dans les sciences humaines et sociales, Jérémy Béchon. Raconter la précarité, raconter les failles, les bosses, le désespoir, c'est la mission que semble s'être fixé Jérémy Béchon dans ce premier roman. Les voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur le 93.9 FM. Une émission de la Compagnie des rêves lucides, coproduite par Radio Campus Paris. Un jeudi sur 4, à 20h. Jérémy Béchon, vous êtes metteur en scène et écrivain. Vous avez co-créé la compagnie Manifeste Rien en 2008, qui met en scène au théâtre des ouvrages de sciences humaines et sociales. Vous avez notamment porté sur scène des auteurs et autrices tels que Pierre Bourdieu, Tassadit Yassine, Gérard Noiriel ou encore Saïd Bouamama, je ne les ai pas tous cités. J'en profite pour dire que ce n'est pas la première fois que nous vous recevons aux Voix du Crépuscule. En effet, nous avions fait une première émission en février 2019. Oui, ça remonte déjà 6 ans. Année moins 1 avant Covid, dans laquelle vous présentiez le collectif Manifeste Rien. Puis en mai 2021, à l'occasion des représentations de... représentations, c'était pas vraiment des représentations puisque c'était une pièce de théâtre enregistrée en fait, qui s'appelait Facho Compatible, puisqu'à l'époque justement, on pouvait pas jouer au théâtre. Votre premier roman L'éclat des fracas est sorti en août 2025 aux éditions Quiero. Un récit qui donne à entendre le cœur des habitants d'un monde qui implose, la voix multiple des précaires et des abîmés. Jérémy Béchon, bonjour.
Bonjour. Moi, ce qui a été lu précédemment, c'est l'ouverture qui ouvre ensuite ce roman. Certains trouvent que ce sont des nouvelles protéiformes. J'ai cherché... C'est un roman qui est composé de fragments de vie, d'éclats de vie qui éclatent. Et comme le photographe ou le peintre peut figer le fracas d'une vague qui percute la roche ou d'un verre qui éclate au sol, j'ai voulu capturer l'instant où les individus se brisent et se révèlent. Et cet instant-là, ça peut être au travail, ou bien chez eux à ne rien faire, devant l'immensité lumineuse de la mer, comme à l'ombre d'une ruelle. Et ensuite, alors, sur les précaires, ça dépend des lecteurs. Certains s'attachent à cette précarité des personnages, à cette marginalité du coup, des personnages. Mais il y a aussi un cadre supérieur, un cadre A dans, dans ces fragments-là.
Mais j'ai dit les précaires et les abîmés.
Ils sont tous abîmés par contre.
Et effectivement, parce que ça, c'est les mots. J'ai repris, je me suis appuyé sur la présentation de l'éditeur.
Oui, bien sûr.
Mais en effet, oui, c'est pas forcément. Alors, on va y revenir, je pense, un peu aux différentes histoires. Je vais prendre le temps de présenter l'équipe. Emeric, dont on a entendu la voix dans l'édito.
Pascal.
Et puis Dario, derrière la console. On revient à ce roman. Et effectivement, alors, vous avez devancé une des questions que j'avais. Finalement, pourquoi roman ? On pourrait penser que c'est une suite de nouvelles. Effectivement, un certain nombre de personnages, de scénettes, et qui n'ont pas forcément de lien les unes avec les autres, ou alors elles en ont un.
Il s'agissait pour moi de pénétrer l'intimité des personnages qui sont tous liés entre eux, mais sans se connaître. C'est construit en trois parties, et dans la première partie, ils sont liés par ce qu'on pourrait appeler un artifice fictionnel, donc ça peut être un même immeuble, une soirée ou un chien. Puis ensuite, dans la deuxième partie, je me suis fatigué de travailler dans ce sens-là, et c'est davantage une même émotion, un même ressentiment, que ce soit la colère ou la rage. Et enfin, dans la troisième partie, on suit les personnages sont dissolus, absents, satellitaires, par le récit, qui est plus long que les autres, et où on suit un manœuvre qui creuse une tranchée au pied de la Sainte-Victoire. Pour moi, c'est après, que ce soit un roman ou des nouvelles, c'est pas très important pour moi, mais c'est construit comme un tout qui peut être pris à n'importe quel moment de la lecture, enfin, du livre. Le but aussi, parce que moi j'aime beaucoup lire comme ça, ouvrir un bouquin en plein milieu et voir si ça me parle ou pas. Ensuite, repartir du début, j'aime assez cette chose-là. Mais c'est vrai que dans le roman, d'habitude, on a un personnage, une situation initiale, et puis un dérèglement, puis un rétablissement. Mais là, il s'agissait de... Comment trouver, lier ces personnages-là qui souffrent en commun et qui ne se connaissent pas directement ? Qu'est-ce qu'ils partagent ? Un même quartier, un même immeuble, une même émotion, une même assignation sociale, ou au-delà justement de l'assignation sociale, une même errance ?
Alors, l'une des réflexions qu'on s'est faites en le lisant, Emeric comme moi, c'est que le roman est très noir. Et je pourrais même dire par moments très désespéré. Alors, on va lire quelques extraits au cours de l'émission, mais je vais faire un inventaire non exhaustif des scènes qu'on a. Il y a cette première scène qu'on a lue dans l'édito. On a la scène avec une femme de ménage qui se rend chez une vieille dame et qui se rend compte en arrivant que la vieille dame est morte, et qui rentre chez elle emplie d'un certain désespoir, justement. On a une scène avec un couple qui se déchire et qui se réconcilie. On a une scène avec un monsieur qui va travailler avec la boule au ventre. On a une scène avec un cadre dans un hôpital psychiatrique qui se pose beaucoup de questions. On a une scène avec un monsieur qui est obligé d'aller travailler parce qu'il est visiblement en fin de droit ou la loi a changé, et qui va travailler dans les ordures, ramasser les ordures. On a aussi une scène avec une femme et son chien qui pense pouvoir faire face aux hommes la nuit grâce à son chien.
Et qui finit poignardé.
Voilà, bon, je voulais pas le dire, mais voilà l'histoire. Cette histoire-là, on l'a un peu divulgachée, comme diraient les Québécois, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a effectivement à la fin cette histoire du monsieur qui creuse une tranchée et qui déterre, alors là on va essayer de ne pas la divulgâcher, mais qui déterre des choses en creusant des choses qu'il ne s'attendrait pas forcément à déterrer. Et il y a beaucoup, il y a toujours beaucoup de désespoir. Alors est-ce que, pourquoi, et est-ce que tout ça fait un lien avec la sociologie que vous pratiquez d'habitude avec le collectif manifesterien et le fait de se pencher sur les difficultés sociales des gens, parfois
Oui et non. Oui, dans le sens que dans le théâtre, il est question d'intimité aussi, mais c'est les comédiens, les comédiennes qui donnent cette intimité-là aux spectateurs, spectatrices. Et on donne par le théâtre un travail d'éducation populaire qui est de donner des outils aussi et de rendre ces outils-là sociologiques, anthropologiques, vivants et que les spectateurs soient en empathie avec les personnages, avec les archives et que ce ne soit pas simplement des chiffres ou des choses distanciées dans l'histoire. Là, je me suis intéressé, j'ai fait le chemin inverse quelque part, n'ayant pas de comédien, comédienne. L'écriture en rentrant dans l'intimité, comme je l'ai dit, des personnages. Et quel que soit, comme vous l'avez dit, qu'ils soient femmes de ménage, cadre supérieur, clochard ou manœuvre, ils subissent tous une même perte de sens de leur existence. Et cette perte de sens, ce grain de sable sous le capot, ça les rend plus clairvoyants que celles et ceux qui ne perdent pas leur boussole intérieure et qui sont convaincus du bien fondé de leur existence et de leur productivité, donc de la valeur de leur productivité. Ces gens-là se brisent. Et dans cet instant où on se brise, on n'est pas capable de nommer ce qui nous brise. On est juste dans cet instant-là de stupéfaction. Et de désespoir, je ne parlerai pas moi de désespoir, mais je parlerai de ce sentiment de grand vide qu'on ressent face à l'absence, face à la mort, de métaphysique. Mais de lier cette métaphysique-là, ce grand rien, aux autres petits riens. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, c'est une femme de ménage. Et ce qui est terrible en découvrant la mort de la dame pour qui elle travaille, c'est comment elle va devoir, elle va pouvoir remplir son frigo, comment elle va pouvoir payer son loyer. Et ces petites choses qui font la vie des personnages avec qui je vivais, puisqu'à l'époque, je n'étais pas metteur en scène quand j'ai écrit ces textes-là, sont sans cesse liés, c'est sans cesse imbriqué. C'est des choses qu'on nous présente parfois comme opposées. Et pour moi, c'est une seule. La vie présente ce même passage ininterrompu de sens et de non-sens.
Alors, on va peut-être lire un premier extrait. Aymeric, tu as sélectionné deux extraits.
Absolument, Pascal.
Tu es prêt à en lire un premier?
Mais tout à fait. Alors, elle a transpiré toute la nuit sur le faux cuir du canapé et macère maintenant dans l'escalade de la température. Elle se sent toujours aussi sale après une douche. Midi à l'horloge en cuivre. Le soleil frappe sur les volets clos. Une mouche tourne autour du trou où fuit le cache-blanc des fils électriques du plafonnier. Elle allume la télé, zappe, essaye de faire un choix. Partir. Elle n'a plus d'amis. Depuis 4 ans, sa vie se réduit à son mari. Retourner chez sa mère, impossible. L'appartement est un nid de mauvais souvenirs. Sa mère elle-même est un nid de mauvais souvenirs. Elle va dans la salle de bain, ouvre la fenêtre. Leur immeuble accroché à la colline comme un Bumont blanc surplombe une zone commerciale qui s'agrandit chaque année. Regarde manœuvrer la grande rue du chantier. Elle monte sur la rambarde, l'enjambe, se jette. Elle plane longtemps, atterrit sur les toits des premiers magasins. Un ange glande à l'ombre d'un tuyau d'aération. Il fouille dans ses ailes et sort 2 canettes de bière fraîche qu'il sirote en regardant les machines. Son mari rentre du travail. Elle réinvestit la salle de bain. Il l'embrasse sur la bouche comme il le fait chaque fois, renifle l'odeur de bière, mais ne dit rien. Il lui a formellement interdit de boire en dehors des grandes occasions. Elle devait la veille le quitter et ne l'a pas fait. Il se dit que c'est peut-être une grande occasion.
Merci Aymeric. Donc là, c'est effectivement une histoire avec un couple. Je ne sais pas, Jérémy, si vous voulez dire quelque chose de particulier sur cette histoire-là.
Ben, c'est, là, on est dans ce même phénomène qui se répète sans cesse, c'est la crise. Et qu'est-ce qui se révèle dans la crise ? Et ces gens-là savent que demain ne sera pas un autre jour, mais sera un jour semblable à ceux qui sont en train de vivre. Et à ce moment-là, il y a cette échappée où elle saute, et plutôt que de se suicider...
J'imagine.
Elle peut aller avec un ange et boire des bières fraîches. À ce moment-là, donc même si ça passe là, par la confusion, par des symboles, par des visions, ils peuvent trouver ce qui les oppresse et ce qui les libérerait peut-être. On sent que cette femme n'est pas loin d'avoir tout... Elle a les clés en... Elle pourrait avoir les clés en main, mais les clés lui glissent en permanence. Parce qu'ils ne poursuivent pas ces nouvelles voies entreaperçues. Ils n'ont pas les moyens nécessaires, ni intellectuels, ni financiers. Non pas qu'ils soient bêtes, mais c'est que dans ce moment-là, c'est pas l'intellect, c'est pas la rationalité qui prime. Et ils ne peuvent pas non plus nommer les choses. Le paradoxe étant pour moi qu'ils restent libres par là même, par cette non-interprétation de la vie, par cette expérimentation de la vie que demande la littérature, à mon sens. Ils ne peuvent pas changer leurs conditions de vie, c'est étant limité par leur classe sociale, par leur assignation, comme je l'ai dit précédemment. Donc ils évoluent dans un monde qui dysfonctionne, dans un monde qui est malade, mais on les accuse, quand ils ne s'accusent pas eux-mêmes, de dysfonctionner et d'être malades.
Moi, quand j'ai lu cette histoire, j'ai pensé que... je défriche un tout petit peu l'histoire, je pense qu'on l'avait un peu compris. On sent que le couple, effectivement, qui a certainement des violences ou en tout cas des vraiment grandes crises, qu'elle a envie de partir. Finalement, il revient, il l'embrasse, il se réconcilie. Et je l'ai lu un peu comme quelque chose qui parlerait justement des violences conjugales et de ces couples qui se déchirent, se réconcilient, se redéchirent, se réconcilient. Mais peut-être que j'ai porté une lecture trop sociologique sur...
Non. Mais il y a une autre nouvelle qui est encore... sur le coup plus violente, où on est directement sur une femme qui est frappée par son mari et qui décide enfin de se venger et de l'assommer avec le yucca de sa belle-mère. Mais là, dans la nouvelle qu'on a lue, c'était pour moi de saisir ce qu'il y a du plus commun dans la violence du couple. C'est-à-dire cette chose extrêmement étrange que notre complice, notre amour, notre double, quand on en vient à se détester soi-même, devient le miroir de notre propre rejet. Et ça crée cette violence-là terrible que sentent les enfants, même s'il n'y a pas de violence physique, mais comme cet infrabasse comme ça qui résonne et dont on a peur, qui pète en permanence.
Jérémy Béchon, vous avez vous aussi sélectionné des extraits. Est-ce que vous voulez nous en lire un tout de suite ?
Alors, je vais m'y risquer. Je vais attaquer par la première, la première nouvelle, du coup, le premier extrait, suite à l'exposition des piliers de Barre qui a été lu en amont. Elle surplombait l'immensité de la mer. Le mistral nettoyait le ciel. Tout était entièrement bleu. Un jogger la dépassa. L'odeur de transpiration gicla à ses narines. Elle se souvint du médecin qui lui avait conseillé le jogging contre les varices. Elle avait choisi les varices. Elle se rendait chez Madame Piquemal, l'appartement jamais ouvert car, comme disait la vieille, après, faut tout fermer. Madame Piquemal en était arrivée au point, et depuis longtemps, où elle ne faisait plus que ses besoins vitaux et attendre dans le fauteuil du salon, face au volet clos, la femme de ménage. Elle gravit l'escalier de roche blanche, reprit son souffle devant la porte, ouvrit. La vision de l'appartement l'attrista, l'attristait toujours. Les tapisseries partaient en lambeaux, la moquette en pelure. Son appartement finirait dans le même état le jour où elle abandonnerait les travaux d'entretien, comme elle avait abandonné l'idée d'entretenir son corps, de combattre les varices. Le jogger devait avoir abandonné quelque chose de lui pour courir en moule bite un lundi matin sur la corniche jusqu'à puer de la sorte. Seul le soleil et le vent pouvaient exister sans renoncer chaque lundi un peu plus à eux-mêmes. Elle posa son sac sur la commode en plastique, noua ses cheveux, prit l'aspirateur dans le placard. La voix chevrotante de Madame Piquemal ne se fit pas entendre. Elle lâcha l'aspirateur, sa crainte se confirma au bout du couloir. Madame Piquemal n'était pas dans le fauteuil du salon. Un post-it signé du médecin posé sur la télé lui apprit qu'elle était morte. Elle revint sur ses pas, rangea l'aspirateur, dénoua ses cheveux. Elle retourna vers le fauteuil où l'attendait d'habitude Madame Piquemal. Elle observa son absence. Elle sentit un vide, son vide, l'étrangeté de celui-ci. Sans compassion pour la vieille ou pour elle-même, elle dévidait les années qui avaient défilé tous les lundis dans cet appartement. Elle ouvrit les volets. Le soleil et le vent s'engouffrèrent pour la première fois depuis la mort du mari. Elle eut vite honte de cette initiative et, consciente de son absurde culpabilité, s'empressa de les fermer.
Merci Jérémy Béchon. Et on va rester dans ce thème de la mort avec Arnaud qui chante « Mourir à plusieurs ».
Excellent choix.
Alors, on attend que Dario chante.
Frigo de multirobo, des îles de bidons et de gaz à gogo, de liquide toxique pour bien qu'élastique, et du silicone pour être esthétique. Ça fait moi peur de mourir à plusieurs. Avec ardeur, nous sommes nos fossoyeurs. Des anti-moustiques, des bonbons chimiques. Tectonique ou la bombe atomique, des sacs en plastique, des boissons qui piquent, des armes automatiques dans les villes touristiques. Ça fait ma peur de mourir à plusieurs. Sans aucune éthique au dessin tragique, des nostalgiques de la chaise électrique, des foutus cyniques qui règlent le cirque. Ça fait de mourir à plusieurs. Avec ardeur, nous sommes nos fossoyeurs. Ça fait moins peur de mourir à plusieurs. Au cœur, mon âme, nous sommes nos fossoyeurs.
Et on est toujours sur Radio Campus Paris, vous écoutez Les Voix du Crépuscule et aujourd'hui nous recevons Jérémy Béchon, metteur en scène et écrivain, et qui nous parle de son premier roman, L'éclat des fracas. Et nous venons d'écouter donc Arnaud, Mourir à plusieurs. C'est vous, Jérémy Béchon, qui nous avez proposé de mettre du Arnaud. Jérémy Béchon, je voudrais revenir un peu. Peut-être à la genèse. Vous nous avez dit que des textes que vous aviez écrits quand vous n'étiez pas encore metteur en scène, donc ça fait longtemps. Mmh. Le roman sort seulement maintenant. Alors déjà, question, pourquoi il ne sort que maintenant. Et finalement, qu'est-ce que vous avez voulu faire en premier entre écrivain et metteur en scène? Parce que moi, je pensais que vous étiez metteur en scène et que vous aviez décidé de vous mettre à l'écriture de romans, mais c'est peut-être un peu dans l'autre sens que ça s'est passé.
Là, c'est plutôt dans l'autre sens. J'écrivais d'abord. Je faisais de la musique aussi, même si j'ai jamais été musicien. Mais pour moi, la musique, l'écriture, la poésie, et la poésie pour moi devait être dite, éclamée. Puis ensuite, elle a été jouée. Pour moi, c'est un même processus. Et c'est après en rencontrant Virginie Hembonne, avec qui j'ai cofondé le collectif Manifeste Rien, que les textes que j'écrivais sont devenus d'abord de la poésie sonore, parce qu'on n'avait pas de lieu de répétition, donc on pouvait travailler qu'avec le son et la voix. Et puis ensuite, au fur et à mesure, on est allé vers des formes de jeu de plus en plus burlesques, de plus en plus traditionnelles, finalement, mais pour faire passer les mêmes choses, la même urgence. Le but, c'était de passer cette urgence de vivre dans un monde où on étouffait, comme la jeunesse étouffe très souvent. Et le théâtre est venu comme ça. Et c'est vrai que ce texte-là, L'éclat des fracas, je l'ai commencé il y a 20 ans, et puis je l'ai fini il y a 15 ans. Donc ça a pris plusieurs années d'écriture. Et c'est ensuite resté très longtemps dans un tiroir, parce que je n'ai pas fait d'études, je suis... pas social, mais il n'y a que le théâtre qui me sociabilise. Finalement, c'est par là que je rencontre les gens, à part le cercle fermé de mes amis et de ma famille. Et donc, je n'avais pas les contacts du monde des éditeurs. C'est très dur d'être lu, tout simplement déjà d'être lu. Ça ne marche que par recommandation, comme partout, comme dans le théâtre aussi. Et puis ensuite, quand j'ai eu quelques retours quand même d'éditeurs, quelque chose qui est revenu, qui m'a vite arrêté, qui m'a fatigué, c'était « c'est bon ». Enfin, parce qu'on n'arrivait pas à... Enfin, je ne dis pas que ce texte est bon, je vous dis les retours que j'ai eus, que le texte était bon, mais que c'était trop noir. Et c'est vrai que ça m'a vite fatigué, parce que je me suis dit, bon, alors s'ils veulent... de la merde en rose bonbon.
C'est ce qu'on veut, Jérémy.
Autant leur en donner. Et moi, la littérature me sert à ça. Enfin, c'est-à-dire que les gens qui m'ont beaucoup influencé, comme Charles Bukowski, comme John Fante, certaines choses de Stieg Dagerman, Thierry Metz, Louis Calafert, enfin, je ne vais pas énumérer comme ça, mais c'est toujours une littérature très noire. Mais c'est justement... enfin, c'est ce qu'on dit, moi, des fois, qu'à l'époque, quand je prêtais les livres, on me disait « Ah, c'est bien, mais c'est costaud, quand même. » Ou « C'est pas propre. » Mais la vie n'est pas propre, quoi. Et pour moi, la littérature sert à ça. C'est-à-dire, ça sert à faire un tout petit peu de bien. Après, il y a toutes sortes de littératures qui existent, et c'est très bien, c'est pas la question, mais ce qui, moi, m'obsédait, en tant que lecteur et en tant qu'écrivain ou apprenti écrivain, c'était d'aider. Enfin, moi, déjà, de trouver un endroit où, quand j'allais très mal, que je lisais des choses que les gens trouvaient très noires, ça m'éclairait. Et c'est cette lumière-là, à mon sens, d'urgence que doit apporter la littérature, même s'il y a dans ma conception des choses.
Oui, il n'y a pas que le feel good qui fait du bien.
Pascal, d'ailleurs, je voulais justement en profiter pour rebondir quand tu dis... Alors, on te faisait des reproches comme quoi c'était très noir, mais aussi peut-être que ça les met mal à l'aise parce que c'est révélateur finalement aussi un peu de nos pensées profondes. Et je pense que c'est ce qui les met mal à l'aise, c'est que bah oui, ça nous arrive aussi de penser un peu à ce vide qui nous entoure, des incohérences de la vie, et peut-être c'est pour ça aussi que ça fait un peu peur aux gens et qu'ils préfèrent rêver d'autres choses que...
Oui, puis là, on ne s'en rend pas compte, mais la littérature est extrêmement bourgeoise. Enfin, c'est-à-dire qu'elle est quand même détenue par ce monopole-là de gens qui n'ont pas à se demander comment payer leur loyer, comment remplir le frigo. C'est quand même la grande majeure partie. Et on nous présente sans cesse les gens qui viennent des quartiers comme l'exception qui confirme la règle. Mais bon. Et moi, je ne viens pas d'un quartier populaire, hein. Je suis d'une classe moyenne. Bon, classe moyenne paupérisée, c'est ainsi par ailleurs. Et oui, il y a eu un retour d'un lecteur qui est un ami de mon père, que j'aime beaucoup, qui était chirurgien et qui m'a dit c'est rêche quand même ce livre-là. Et puis ensuite il m'a dit mais il m'a parlé de deux passages qu'il avait beaucoup aimé qui étaient sur la peinture. Et ensuite en me disant c'est bien de marquer comme ça, de décrire du dedans ces gens que lui ne fréquente pas ou ne fréquente plus depuis longtemps. Et ça leur envoyait une forme de culpabilité sociale. Enfin, ça rejoint peut-être ce que tu racontes, même si le but, ce n'est pas du tout de culpabiliser le lecteur, bien entendu, mais c'est de montrer ce que la littérature ne montre pas d'habitude. Mmh. Et ensuite, si ça a été édité, c'est parce que Samuel Autexier, qui dirige les éditions Kiro, en fait, avait lu ce texte il y a 20 ans de ça, ou 15 ans de ça, et puis il voulait éditer une nouvelle, enfin le dernier passage de ce livre-là. Et puis je lui ai envoyé l'entièreté parce que j'avais pas le temps de faire la sélection. Et du coup, il a tout lu et il m'a dit on part sur. Il est parti sur faire l'intégrale. Et c'est vrai que Samuel Autexier a travaillé aux éditions Agon. Avant de monter les éditions Kiro, il a beaucoup travaillé sur la littérature prolétarienne suédoise, sur l'aspect politique de la littérature prolétarienne française. Jean Giono, enfin des choses, même si Jean Giono est une star de la littérature, mais la littérature paysanne. Et c'est vrai qu'il a cette sensibilité-là et cette volonté d'allier la recherche esthétique et une réalité sociale qui n'est pas portée, j'allais dire, à l'écran d'habitude, en tout cas assez peu souvent dans les pages d'un roman.
Alors, on a pas mal d'extraits qu'on a encore envie de lire, donc je propose qu'on en lise un. Donc on a plusieurs choix, je ne sais pas si là vous voulez en lire un en particulier ou si on prend le deuxième extrait qu'a choisi Aymeric.
Alors c'est parti. Je ne travaillais plus, me demandais comment j'avais pu le faire. Je ne voyais plus mes amis, n'avais plus de femme et ne ressentais aucun manque. Le dernier livre qui m'avait d'ailleurs fatigué de lire m'avait laissé cette phrase qui résumait toutes les autres, les contenait et les annulait en même temps. Tout est égal. Je me demandais combien de temps je pourrais tenir ainsi. Mais l'État remédia à cette question en me coupant les allocations. Je reçus, après avoir épuisé le dernier découvert de ma banque, un courrier qui m'accusait d'avoir refusé le dépôt d'un projet professionnel en ne me rendant pas aux journées de l'insertion. Je me présentais. J'avais, paraît-il, déjà décliné deux offres d'emploi. Il n'y aurait pas de troisième chance, ou sous peine de dire définitivement adieu aux allocations. On me proposa un emploi d'une trentaine de jours. Aide à l'assainissement de la ville. Un projet pilote de recyclage. Besoin de moi. C'était écrit en majuscule sur le fronton de la page, mentionnant l'heure de mon rendez-vous à l'agence d'intérim. En un autre temps, j'aurais justifié mon inaction par tous les maux de la terre afin d'obtenir une rallonge des allocations. Et tout est égal, me dis-je en relisant la feuille. Le surlendemain, j'étais dans une décharge, muni d'une pelle et d'une fourche, devant les tas d'ordures lâchés par les camions. Je devais étaler les déchets sur une langue métallique qui roulait vers une grande bouche puante. Je ne vis jamais ce qu'il y avait derrière elle. Tout est égal, pensais-je encore, durant ma première heure de travail.
C'est vrai que c'est gay. Ouais, oui. Bon, après, dans ce récit-là, il y a quand même un moment où tout est égal, et puis il est poussé par un petit chef qui jouit de ses prérogatives. Mmh. Et ce personnage-là qui a été envoyé de force pour échapper aux journées de l'insertion et qui travaille là, finit par prendre empoignée la tête de ce petit chef et de la frapper plusieurs fois sur le bureau. Suite à quoi tout est égal, mais pour le petit chef et plus seulement pour le personnage. Oui. Donc il y a quand même une petite échappée à chaque fois.
Ouais, et c'est un happy end quand même. pas pour le petit chef, mais en même temps.
Oui, quand on le lit, il y a un côté happy end. Ouais. De voir le personnage exploser.
Parce qu'on ressent cette rage et finalement, on a envie que, qu'elle se matérialise.
Vous dites que vous parlez de, d'avoir écrit sur des gens avec qui vous viviez. Mmh. Ce sont des gens que vous avez connus ?
Oui, c'est des gens que j'ai connus ou c'est moi-même. Hein. Comme j'ai dit, je n'étais pas metteur en scène. J'ai arrêté mes études à 18 ans. Donc, j'ai travaillé à partir de 18 ans. Même si j'ai eu la chance d'être aidé par une famille aimante qui m'a toujours soutenu et me soutient. Mais bon, il fallait bien bosser. Donc oui, j'ai fait pas mal de boulots qui sont décrits dans le livre. Les amis aussi, qui étaient du même milieu social, ce qui renvoie certains lecteurs à une forme de marginalité des personnages. Et puis, je vivais au Panier, qui est un quartier populaire du centre de Marseille, le seul qui n'a pas été détruit par les destructions urbaines de 1943. On en parlera peut-être plus tard, ça concerne notre théâtre. Et ce quartier du Panier a beaucoup changé depuis, parce que le tourisme, cette colonisation du tourisme a fait changer le quartier, même s'il y a des choses qui restent. Je suis passé il y a quelques temps, il y a quand même encore de la résistance par l'inertie. Parce qu'à Marseille, comme dans les villes populaires, l'inertie est une forme de résistance. Et dans ce quartier-là, peu de gens travaillent. Enfin, les gens aimeraient bosser, mais il n'y a pas énormément de boulot à Marseille. Donc voilà, on est obligé de se démerder comme on peut. Et il y a cette sorte d'abandon dans les quartiers populaires du centre de la ville de Marseille à l'époque. Il y avait ce sentiment de déréliction qu'on devait combattre, parce qu'il faut bien avancer. Mais oui, donc voilà, c'était là, là où je vivais, quoi.
Est-ce qu'on lirait un autre extrait ? Alors, vous aviez choisi un court extrait, vous aviez aussi envie de lire la fin de l'histoire de la femme de ménage. Alors, je ne sais pas si on a tout à fait le temps de faire les deux, mais bon, on peut essayer. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous aimeriez lire, Jérémy Béchon ?
Je vais finir la nouvelle de la... Comme ça, il y a la nouvelle de la femme de ménage qui rentre chez elle. Donc, entre-temps, elle erre dans l'appartement suite à la mort de la vieille dame. Elle prend le bus et elle rentre chez elle dans ce quartier du Panier, même si le quartier du Panier n'est pas nommé, parce que je tenais à ne pas nommer ces quartiers qui sont emblématiques, ou je tenais pas à nommer la ville de Marseille trop souvent, même si on m'a dit qu'elle était fortement présente aussi. Elle aperçut une nouvelle fissure dans le mur, se rappela le conseil de son beau-frère, doubler les murs de placo. Ces paroles lui remémoraient son père, qui avait été maçon et détestait ces nouveaux matériaux, ces ersatz de la société moderne. Elle se leva pour inspecter la fissure, pensa à lui comme une erreur de l'ancienne société. Il n'y avait rien de nouveau. Son père avait vitupéré en vain pour le maintien de l'ordre, la vertu de ses filles, la place de sa femme. Elle pensa que cette génération avait eu l'illusion d'appartenir à un autre temps. Ici, un sentiment de stagnation et de stagnation du déclin, semblait irrémédiablement installé. Elle pensa qu'il n'y avait pas de génération, que rien. Pas même le temps ne nous distinguait les uns des autres. Les êtres vivaient leur temps et disparaissaient à tour de rôle. Elle n'avait pas eu d'enfant. Elle disparaîtrait plus seule que son père. Elle était une femme de ménage à temps partiel. Se demanda s'il n'était pas injuste qu'une femme ne puisse plus faire ses courses une fois le loyer payé. À cause d'un décès, d'une femme qui attendait la mort depuis 10 ans, depuis qu'elle avait commencé à travailler dans cette maison avec vue sur la mer jamais ouverte. La justice n'avait pas d'interaction avec le monde. La justesse du monde était dans sa réalité, dans la cuisine. C'était tout. Rien de plus qu'une fissure dans le mur repeint. Le triste constat qu'elle avait dressé d'elle-même dans le bus était irréel. Les pensées qui l'habitaient en ce moment devaient l'être aussi. Au bout du compte, le compte y était. Tout avait une place, même cette nouvelle fissure. Et la sienne n'était pas à plaindre. Combien de malheureux, qui ne la rendaient pas moins malheureuse, souffraient davantage dans cette ville, ce quartier, cet immeuble, chacun avec son taux d'injustice et son manque de justesse. Elle n'était pas morte comme son père et Madame Piquemal, mais elle n'était rien à temps partiel. Une séquence de la mort venait ainsi l'accueillir dans sa cuisine. Elle alluma le téléviseur, une cigarette, zappa en attendant le journal de 13 heures.
Et sur cette lecture, on va passer à une musique et on va rester à Marseille avec la deuxième pause musicale. Ayam, regarde.
La gaieté doit un jour céder. Pour certaines personnes, la vie est un échec, mais c'est juste une page dans le carnet de bord d'un sale métèque. Il ne nous en veut même pas, flippe pas devant le feu de ses regards qui croisent et ne l'aime pas. Je pense quand j'embrasse mon fils que lui réserve l'avenir, j'angoisse. Reviens à la réalité, esquisse un mouvement de la main, c'est dément. Il est allongé là et tous ces gens passent indifférents, regardent un peu autour. Ils meurent de faim, les fous veulent garder leur privilège et crèvent plein de pèse jusqu'au cou. Mon Dieu, quel fait sinistre. Le dernier des clochards contre le premier des ministres. Relax chez eux, entre un bridge de boniche et leur cocktail. Je lâche cette bombe et qu'elle pète dans leur cocktail.
Au royaume animal, le lion est roi, l'homme devient fou. Combien d'âmes tombées sous ses coups. La terre est seule témoin de ses crimes ici bas. Et chacun pour soi, regarde, chez là, regarde. Au royaume animal, le lion est roi, l'homme devient fou. Combien d'âmes tombées sous ses coups. La terre est seule témoin de ses crimes ici bas. Et chacun pour soi, regarde, chez là, regarde.
J'aurais aimé être beaucoup de choses, mais il n'en est rien. Je ne suis qu'un homme, diseur de prose. Et je ne suis pas à l'abri pour autant. Vu que mes semblables tirent sur leurs frères à tout bout de champ. Un pauvre mec pour une place de parking se prend deux balles et laisse derrière lui deux orphelines anodines. L'histoire se répète chaque jour quand un tireur prend des gens pour cible du haut de sa tour. Et tout ceci dans ce délecte la masse est envoyé par la télé qui sans cesse ressasse ces histoires de crimes à grand renfort de gros plans. Aux heures de repas, des peuples entiers dans des bains de sang. J'en ai marre de voir tomber des minots. Je voudrais savoir quand est-ce qu'on va rire pendant les infos. Tu vois, tout a évolué sauf nous. L'époque des jeux de Rome n'est pas si loin après tout.
Au royaume animal, le lion est roi, l'homme devient fou. Combien d'âmes tombées sous ses coups. La terre est seule témoin de ses crimes ici bas. Et chacun pour soi, regarde, Angela, regarde. Au royaume animal, le lion est roi, l'homme devient fou. Combien d'âmes tombées sous ses coups. La terre est seule témoin de ses crimes ici bas. Et chacun pour soi, regarde, Angela, regarde.
Il y eut, paraît-il, le paradis ici. Il n'en reste rien, c'est dans les livres qu'il survit. Voilà pourquoi l'argent tout le temps fait le pouvoir, souvent conféré à des incompétents. Il y eut la peste, le sida frappe très fort. Mais la connerie humaine a toujours battu tous les records. On gaspille des millions au nom du progrès. Mais restera-t-il encore quelqu'un sur terre pour en profiter?
La limite des batailles, les conflits d'intérêts, des fanatiques braille, les démoniaques raillent, l'homme n'est pas de taille. La partie est trop forte pour un inconscient de la sorte. Le gardien des cieux, leur claque la porte sur l'arche de Noé. Nous sommes les seuls animaux, car on peut tuer gratuitement, non pas pour survivre. Et je suis inquiet pour les lendemains. Angela, ma sœur, l'homme crache sur les œuvres de son créateur.
Au royaume animal, le lion est roi, l'homme devient fou. Combien d'âmes tombées sous ses coups. La terre est seule témoin de ses crimes ici bas. C'est chacun pour soi, regarde, Angela, regarde. Au royaume animal, le lion est roi, l'homme devient fou. Combien d'âmes tombées sous ses coups. La terre est seule témoin de ses crimes ici bas. Et chaque soir, regarde, j'ai la regarde.
Les voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
Et nous sommes toujours avec Jérémy Béchon, metteur en scène et écrivain, qui nous parle de son livre « L'éclat des fracas ». Jérémy Béchon, on va parler, vous avez un dernier extrait, très court, et vous aviez encore envie de nous parler de l'enchaînement des histoires, parce que pour vous, il y a quelque chose de structurel dedans. Moi, effectivement, juste, je peux parler un peu de mon expérience, parce que moi, je l'ai lu en grande partie avec une synthèse vocale. Il fallait que je le lise assez vite avant l'émission. Et du coup, j'avais des fois du mal à comprendre quand est-ce qu'on passait d'une histoire à l'autre. Enfin, l'enchaînement m'avait parfois un peu perdu.
Oui, ça dépend des lecteurs. Par exemple, ma compagne, Magali Contreras, avait lu les épreuves. Enfin, le texte était beaucoup plus long. Samuel Autexier m'a beaucoup aidé à gagner en concision et m'a fait couper pas mal de séquences. Ça a gagné du coup en tonus. Mais pour elle, les liens entre les personnages, quand je lui avais dit, mais dans les coupes qu'a fait Samuel, ça m'embête parce qu'on a perdu tel lien et tel lien. Elle me disait, mais quel lien ? Pour elle, ça ne l'avait pas du tout. Alors qu'elle avait beaucoup aimé ce texte-là. Et puis, une autre lectrice, là, Christiane Passevent, de Radio Libertaire, qui m'a reçu il n'y a pas très longtemps, pour elle c'était évident, enfin, c'est quelque chose qu'elle avait directement appréhendé dans la lecture et que c'était ce lien entre les personnages qu'elle trouvait intéressant. Donc ça dépend des interprétations, mais pour moi les personnages se suivent et s'enchaînent, mais parce que ça ne s'emboîte pas comme dans les pièces d'un puzzle. Pour moi, il n'y a pas une seule image de la vie que j'ai voulu donner, mais le passage de la vie qu'on omet de raconter, celui qui est le plus souvent le moins glorieux et pourtant qui s'incruste dans la vie en faisant que passer. Voilà. Il s'agit d'une succession de vies qui sont dissemblables et communes, libres et asservies. Des vies qui en ont assez de vivre ainsi, ni totalement libres, ni totalement asservies, et qui ont conscience que leur puissance de vie diminue à chaque fois qu'elles respirent, mais que cette conscience de leur diminution pourtant les grandit. Mais personne ne les entend, mis à part le lecteur ou le cœur muet des semblables protagonistes qui marquent leur altérité. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de ce roman parcellaire.
Bah, je pense après qu'il faut que les gens le lisent et se fassent leur propre expérience de lecture aussi. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Quand on a une histoire comme celle-là, que je me suis permis de qualifier d'étrange dans l'édito, mais là aussi c'est pareil, je me suis un peu appuyé sur un mail de l'éditeur qui parlait d'un objet non identifié, je crois, oui. Parce qu'il disait qu'il n'y avait pas eu de place pour le livre dans la rentrée littéraire en septembre.
Oui, ben dans la rentrée, on est vite noyé, mais c'est vrai que... Bon, après, dans le théâtre, il a fallu 15 ans de travail avant que les gens reconnaissent cette forme-là théâtrale. Alors, elle est critiquable avec Manifeste Rien, ce qu'on a fait, mais comme étant une forme de théâtre. Mais c'est vrai que quand on a commencé, et l'esthétique était là, on est meilleur maintenant, j'espère, aujourd'hui qu'à nos débuts, encore que, je ne sais pas, c'est aux spectateurs de dire, mais en tout cas, l'esthétique était la même. On a cherché en permanence, mais c'est vrai que les premières pièces qu'on a faites pour les gens, du théâtre, c'était des ovnis. C'était une autre manière de travailler. Et c'est vrai qu'avec ce texte-là, l'éclat des fracas aussi, il y a beaucoup de ce côté de non identifié, parce que est-ce que c'est des nouvelles, est-ce que c'est un roman, il y a une quantité de personnages, mais ils n'ont quasiment jamais de nom. Ça se passe à Marseille, mais ça pourrait se passer n'importe où, même si les éléments du soleil, du vent, de la mer sont là. Pour moi, c'est assez naturel. C'est-à-dire que l'art, sans grande pompe, mais avec la plus grande exigence qui doit être requise, à mon avis, c'est de donner la forme la plus irréductible de soi-même. Et ce qui nous fait notre charme ou notre antipathie, mais de cet intérieur là qui nous singularise dans un monde qui nous met tous au pas, quoi. Voilà.
Alors je vous propose de lire l'extrait que vous avez choisi, le court extrait.
C'est les premières fois que je lis mes textes. Attention, c'est... Un sentiment étrange m'habitait sur l'autoroute vide, sous la lune blafarde et balistique. Les loupiottes des maisons, des immeubles, apparaissaient les unes après les autres, comme les pièces d'un puzzle, la mise en action d'un plan précis, une codification qu'on pouvait parfaitement traduire, sans pour autant comprendre. Nous avions plus d'automatisme que les fourmis, plus d'aboulis que les mollusques. Nous étions la race reine sur ce terre-plein d'univers saturé de corps et de béton, au rendez-vous du soleil, fidèle et soudé à sa macération. Voilà, ça, c'est un personnage qui va bosser tous les jours sur cette tranchée. Et là, il est sur l'autoroute. Et à ce moment-là, justement, ce qui le singularise, c'est qu'il est rien. Il n'est que cette force de travail qui va piocher tous les matins pour pouvoir payer son loyer. Et du coup, ce moment-là, pour moi, ça n'a pas d'intérêt en littérature. Ça a un intérêt, mais en littérature, la différence, encore une fois, du théâtre, on pourrait parler de prolétariat, de sous-prolétariat ou de classe moyenne, ou de force de travail, mais c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce personnage-là? Et ça, c'est unique, ce qui se passe dans sa tête.
Oui.
Enfin, j'espère.
Alors, on ne va pas dévoiler justement ce qu'il déterre, ce personnage, mais pour donner envie aux lectrices et aux lecteurs de chercher le livre « L'éclat des fracas ». Jérémy Béchon, il nous reste quelques minutes. J'aimerais bien qu'on parle un tout petit peu du collectif Manifeste Rien. Alors, je ne sais pas d'ailleurs, il faut dire collectif ou compagnie Manifeste Rien.
C'est la même chose.
C'est la même chose.
Non, c'est nommé collectif Manifeste Rien parce que avec Jean-Baptiste Couton, avec qui j'ai cofondé aussi Manifeste Rien, peu de temps après avoir rencontré Virginie Aymon. La rencontre avec Jean-Baptiste au niveau de la co-écriture et de la mise en scène. On était autant attirés par la vidéo que la musique, que la poésie, que le théâtre. Et si on travaillait ensemble, il pouvait monter ses propres projets, moi les miens. Et encore aujourd'hui, moi je suis auteur-metteur en scène et je signe une large partie des mises en scène qui sont parfois co-signées avec Virginie Aymon. Et puis on a une autre metteuse en scène qui s'appelle Leslie Logero, qui travaille avec Cyril Laurent et qui font du théâtre d'ombre, qui a une autre esthétique, même si les thématiques se recoupent, mais qui travaille sans texte, qui travaille à théâtre d'ombre à la fois traditionnel et innovant. Ils utilisent plein de matières qu'on n'utilise pas d'habitude au théâtre d'ombre. Donc, donc collectif ou compagnie, oui. c'est pas
bien grave. On peut dire les deux. Alors, j'aimerais bien qu'on parle, ça va être vraiment très résumé dans le temps qui nous reste, mais vous avez des nouvelles créations que vous avez faites ces dernières années. Mm-hmm. Y en a deux que j'aimerais bien que vous nous présentiez un petit peu. Donc, vraiment, une présentation, parce que on a à peu près 3 minutes. Il y a celle qui s'appelle Public Amor. Alors, c'est Amor, A-M-O-R, comme l'amour en espagnol. Mais bon, bien sûr, c'est aussi un jeu de mots, Public Amor, sur le service public. Et je crois qu'il y en a une, j'ai oublié le titre, sur le justement, vous en parliez tout à l'heure, les quartiers de Marseille qui ont été...
Les rafles d'un siècle à l'autre.
Oui. Alors, je ne sais pas laquelle vous voulez nous présenter en premier.
Bah là, le Public Amor, c'est une pièce qui a été sous la direction au niveau de l'écriture de Virginie Aymon. Moi, j'ai collaboré à l'écriture et on a fait la mise en scène ensemble. Et c'est d'après le livre La haine des fonctionnaires aux éditions Amsterdam de Willy Pelletier, Julie Gervais et Claire Lemercier, qui sont politologues, dans l'ordre sociologue, politologue et historienne. Avec le titre, on voit bien de quoi ça parle, la haine des fonctionnaires. Ils ont aussi beaucoup travaillé sur la valeur du service public, sur le capitalisme, sur l'histoire du capitalisme. Et la pièce est sur les ravages du néolibéralisme aujourd'hui.
Et la destruction des services publics.
Voilà, du coup, comment la destruction du service public s'opère, comment idéologiquement ça s'installe avec les boîtes de consultants, avec des hauts fonctionnaires qui naviguent entre le public et le privé. Ils bénéficient des grandes écoles publiques, HEC et autres, pour ensuite aller travailler chez Bolloré, chez Bouygues, et puis ils reviennent, ils se font un carnet d'adresses. Voilà, c'est sur ce personnage-là, qui s'appelle Marc dans la pièce, et puis ensuite on voit cette destruction qui se fait dans une municipalité d'une petite ville de France, comment les services sont fracassés, comment...
Je vous interromps parce que le temps est très court. Les autres destructions, les rafles d'un siècle à l'autre.
C'est une bonne transition, félicitations. Et les rafles d'un siècle à l'autre, c'est sur la destruction des quartiers populaires de la ville du centre-ville de Martial, la rive nord du Vieux-Port, qui borde le quartier du Panier dont je parlais, où beaucoup de mes personnages évoluent. Et ça, c'est des hectares qui ont été détruits par les Allemands en 1943. Sauf que le plan précis du dynamitage a été tracé par la municipalité de la ville de Marseille des années avant et qu'en fait, les Allemands n'ont mis que les bâtons de dynamite en suivant l'ordre des urbanistes et des élites marseillaises et parisiennes, puisqu'ils voulaient se débarrasser des classes populaires. Et quoi de plus pratique pour éviter les indemnisations, pour éviter des tas de choses que la dynamite. Et voilà, c'est une pièce sur cette histoire-là, parce qu'il y a eu quand même près de 25 000 déportés ensuite, parce qu'il y en a qui ont été déportés au camp de Fréjus, un quartier, imaginez 25 000 personnes comme ça, en une nuit. Mais c'est une histoire qui est très méconnue parce que ça renvoie à la culpabilité des urbanistes et on l'a mis en parallèle avec la rénovation de la ville de Marseille et la rue emblématique de la rue de la République qui borde justement qui bordait ces quartiers avec de nouveau des petites gens qui ont été expulsés. Et dans la pièce, on s'est inspiré d'un témoignage. On a eu la chance de retrouver un témoignage. Beaucoup de gens qui ont été expulsés de ces quartiers en 1943 et déportés. Parfois, juste déportés s'ils étaient juifs ou résistants dans les camps de la mort. Il y en a qui sont revenus. Et ceux qui sont revenus se loger au plus proche du quartier. Et notamment de quartier de la rue de la République. Et lors des dites rénovations urbaines, c'est cette femme-là qui a maintenant 90 ans va se retrouver de nouveau expulsée de là où elle vivait.
Merci Jérémy Béchon. Alors on rappelle que donc, votre livre L'éclat des fracas est sorti aux éditions Kierou et on va mettre le lien dans la description du podcast des voix. On aura l'occasion de vous voir, vous ou vos collègues de Manifestoriens, donc le 16 janvier 2025, pour le massacre des Italiens lors de la commission antiraciste de Sud Éducation 13 à la MJC de Martigues. Le 22 et 23 janvier, pour Tamouk, à l'école maternelle, Vinsonneau, à Montastruc, la conseillère.
Montastruc. C'est vers Toulouse.
D'accord, vers Toulouse. En mars 2025, rencontre en librairie. L'éclat des fracas, donc aux éditions Kiro toujours. Et le 19, ce sera le 19 mars à la librairie La Balançoire.
À Cré. Dans la Drôme.
Et
ensuite, il y aura d'autres dates qui se. Sur manifestorium.com,
blog.
On reviendra jouer à Saint-Ouen, à Montreuil, où on a joué il n'y a pas très longtemps.
Parfait. Merci Dario pour la réalisation. Merci Pascal pour l'animation. Merci à vous, Jérémy, pour les lectures.
Merci beaucoup.
Il est bientôt 21h sur Radio Campus Paris. Place à la musique désormais avec Map Monde.